Gospel. 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 Gospel du jour. Thomas Sankara. Discours d'orientation politique d'octobre 1983.
Camarades militantes et militants de la Révolution, notre peuple a subi l'épreuve de lutte héroïque et a enfin remporté la victoire dans la nuit devenue désormais historique du 4 août 1983. La Révolution d'août est l'aboutissement de la lutte du peuple voltaïque. Le triomphe de la Révolution d'août n'est pas seulement le résultat du coup de force révolutionnaire imposé à l'alliance sacro-sainte réactionnaire du 17 mai 1983. Il est l'aboutissement de la lutte du peuple voltaïque sur ses ennemis de toujours. C'est une victoire sur l'impérialisme international et ses alliés nationaux. Une victoire sur les forces rétrogrades, obscurantistes et ténébreuses. Une victoire sur tous les ennemis du peuple qui ont tramé complots et intrigues sur son dos. La révolution d'août est le terme ultime de l'insurrection populaire déclenchée suite au complot impérialiste du 17 mai 1983, visant à endiguer la marée montante des forces démocratiques et révolutionnaires de ce pays. Lorsque dans les années 1960, le colonialisme français, traqué de toutes parts, déconfit à bien fou, en prise à des difficultés énormes en Algérie, fut contraint, tirant ainsi le son de ses défaites, d'octroyer à notre pays la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, cela a été salué positivement par notre peuple qui n'était pas resté impassible, mais développait des luttes de résistance appropriées. Cette fuite en avant de l'impérialisme colonialiste français constitua pour le peuple une victoire sur les forces d'oppression et d'exploitation étrangères. Du point de vue des masses populaires, ce fut une réforme démocratique. Tandis que du point de vue de l'impérialisme, ce fut une mutation opérée dans les formes de la domination et de l'exploitation de notre peuple. Cette mutation a abouti cependant à une redisposition des classes et couches sociales et à l'établissement de nouvelles classes. En alliance avec les forces rétrogrades de la société traditionnelle, la petite bourgeoisie intellectuelle de l'époque, dans un mépris total des classes fondamentales qui lui avaient servi de tremplin pour son accession au pouvoir, entreprit d'organiser des fondements politiques et économiques de nouvelles formes de la domination et de l'exploitation impérialiste. La crainte que la lutte des masses populaires ne se radicalise et ne débouche sur une solution véritablement révolutionnaire est à la base du choix opéré par l'impérialisme et qui consiste à exercer dorénavant sa mainmise sur notre pays, à perpétuer l'exploitation de notre peuple par des nationaux interposés. Les nationaux voltaïques allaient prendre le relais de la domination et de l'exploitation étrangère. Toute l'organisation de la société néocoloniale reviendra à une simple opération de substitution dans les formes. Dans leur essence, la société néocoloniale et la société coloniale ne diffèrent en rien. Ici, à l'administration coloniale, on a vu se substituer une administration néocoloniale identique sur tous les rapports à la première. À l'armée coloniale, se substitue une armée néocoloniale avec les mêmes attributs, les mêmes fonctions et le même rôle de gardien des intérêts de l'impérialisme et de ceux de ses alliés nationaux. À l'école coloniale, se substitue une école néocoloniale qui poursuit les mêmes buts d'aliénation des enfants de notre pays et de reproduction d'une société essentiellement au service des intérêts impérialistes, accessoirement au service des valeurs et alliés locaux de l'impérialisme. Tout cela se déroule sous les yeux d'un peuple voltaïque, laborieux, courageux et honnête, mais qui croupit dans la misère la plus crasse. Si pour la minorité des riches, l'Ordre Volta constitue un paradis, pour cette majorité que constitue le peuple, elle est un enfer à peine supportable. Elle est un enfer à peine supportable. Les classes parasitaires qui avaient toujours tiré profit de l'Ordre Volta colonial et néocolonial sont et seront hostiles aux transformations entreprises par le processus révolutionnaire entamé depuis le 4 août 1983. La raison en est qu'elles sont et demeurent attachées par un cordon ombilical à l'impérialisme international. Elles sont et demeurent les fervents défenseurs des privilèges acquis du fait de leur allégeance à l'impérialisme. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, elles resteront égales à elles-mêmes et continueront de tramer complots et intrigues pour la reconquête de leur royaume perdu. De ces nostalgiques, il ne faut point s'attendre à une reconversion de mentalité et d'attitude. Ils ne sont sensibles et ne comprennent que le langage de la lutte de classe révolutionnaire contre les exploiteurs et les oppresseurs des peuples. Notre révolution sera pour eux la chose la plus autoritaire qui soit. Elle sera un acte par lequel le peuple leur imposera sa volonté par tous les moyens dont il dispose et s'il le faut, par ses armes. Ces ennemis du peuple, qui sont-ils? Ils se sont démasqués aux yeux du peuple lors des événements du 17 mai dans leur arme contre les forces révolutionnaires. Ces ennemis du peuple, le peuple les a identifiés dans le feu de l'action révolutionnaire. Ce sont, premièrement, la bourgeoisie voltaïque qui se distingue de par la fonction que les uns et les autres accomplissent en bourgeoisie d'État, bourgeoisie comprador et bourgeoisie moyenne. La bourgeoisie d'État, c'est cette fraction qui est connue sous l'appellation de la bourgeoisie politico-bureaucratique. C'est une bourgeoisie qu'une situation de monopole politique a enrichi de façon illicite et crapuleuse, se servant de l'appareil d'État, tout comme le capitaliste industriel se sert de ses moyens de production pour accumuler la plus-value tirée de l'exploitation de la force de travail des ouvriers. Cette fraction de la bourgeoisie ne renoncera jamais de plein gré à ses anciens avantages pour assister passif aux transformations révolutionnaires en cours. La bourgeoisie commerçante. Cette fraction, de par ses activités mêmes, est attachée à l'impérialisme par de multiples liens. La suppression de la domination impérialiste signifie pour elle la mort de la poule aux œufs d'or. C'est pourquoi elle s'opposera de toutes ses forces à la présente révolution. C'est dans cette catégorie que se recrutent, par exemple, les commerçants véreux qui cherchent à affamer le peuple en retirant de la circulation les vivres à des fins de spéculation et de sabotage économique. La bourgeoisie moyenne. Cette fraction de la bourgeoisie voltaïque, bien qu'ayant des liens avec l'impérialisme, rivalise avec celui-ci pour le contrôle du marché. Mais comme elle est plus faible économiquement, elle se fait évincer par l'impérialisme. Elle a donc des griefs contre l'impérialisme, mais a aussi peur du peuple, et cette peur peut l'amener à faire front avec l'impérialisme. Les forces rétrogrades qui tirent leur puissance des structures traditionnelles du type féodal de notre société. Ces forces, dans leur majorité, ont su opposer une résistance ferme à l'impérialisme colonialiste français. Mais depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, elles ont fait corps avec la bourgeoisie réactionnaire pour oppresser le peuple voltaïque. Ces forces ont tenu les masses paysannes en une situation de réservoir à partir duquel elles se livraient à des surenchères électoralistes. Ce sont là les ennemis du peuple dans la présente révolution. Ce sont là les ennemis du peuple dans la présente révolution. En dehors des classes et couches sociales réactionnaires et anti-révolutionnaires, si je suis énuméré, le reste de la population constitue le peuple voltaïque. Un peuple qui tient la domination et l'exploitation impérialiste en abomination et qui n'a cessé de le manifester dans la lutte concrète de tous les jours contre les différents régimes néocoloniaux. ce peuple dans la présente révolution regroupe, premièrement, la classe ouvrière voltaïque, jeune et peu nombreuse, mais qui a su faire la preuve dans ses luttes incessantes contre le patronat qu'elle est une classe véritablement révolutionnaire. Dans la révolution présente, c'est une classe qui a tout à gagner et rien à perdre. Elle n'a pas de moyens de production à perdre. Elle n'a pas de parcelles de propriété à défendre dans le cadre de l'ancienne société néocoloniale. Par contre, elle est convaincue que la révolution est son affaire, car elle en sortira grandie et fortifiée. La petite bourgeoisie, deuxièmement, qui constitue une vaste couche sociale très instable et qui hésite très souvent entre la cause des masses populaires et celle de l'impérialisme. Dans sa grande majorité, elle finit toujours par se ranger du côté des masses populaires. Elle comprend les éléments les plus divers, parmi lesquels les petits commerçants, les intellectuels petits bourgeois, fonctionnaires, étudiants, élèves, employés du secteur privé, les artisans. Troisièmement, la paysannerie. La paysannerie voltaïque, dans sa grande majorité, constitue de petits paysans, attachés à la propriété parcellaire du fait de la désintégration progressive de la propriété collective depuis l'introduction du mode de production capitaliste dans notre pays. Les rapports marchands dissolvent de plus en plus les liens communautaires et à leur place s'instaure la propriété privée des moyens de production. Dans cette nouvelle situation ainsi créée par la pénétration du capitalisme dans nos campagnes, le paysan voltaïque qui se trouve lié à la petite production incarne des rapports bourgeois de production. Quatrièmement, le lumpen prolétariat. C'est cette catégorie d'éléments déclassés qui, du fait de leur situation de sans-travail, sont prédisposés à être à la solde des forces réactionnaires et contre-révolutionnaires pour l'exécution de leurs sales besognes. Dans la mesure où la révolution saura les convertir en les occupant utilement, ils pourront être de fervents défenseurs. La révolution a pour premier objectif de faire passer le pouvoir des mains de la bourgeoisie voltaïque alliée à l'impérialisme aux mains de l'alliance des classes populaires constituant le peuple. Ce qui veut dire qu'à la dictature antidémocratique et antipopulaire de l'alliance réactionnaire des classes sociales favorables à l'impérialisme, le peuple au pouvoir devra désormais opposer son pouvoir démocratique et populaire. La révolution vise à la transformation de la société sous tous les rapports, économiques, sociaux et culturels. Elle vise à créer un voltaïque nouveau, avec une moralité et un comportement social exemplaire qui inspire l'admiration et la confiance des masses. La domination néocoloniale a placé notre société dans un pourrissement tel qu'il nous faudra des années pour la purifier. La révolution d'août ne vise pas à instaurer un régime de puissance voltaïque. Elle vient en rupture avec tous les régimes connus jusqu'à présent. Elle a pour objectif final l'édification d'une société voltaïque nouvelle au sein de laquelle le citoyen voltaïque, animé d'une conscience révolutionnaire, sera l'artisan de son propre bonheur, un bonheur à la hauteur des efforts qu'il aura consentis. Pour ce faire, la révolution sera, n'en déplaise aux forces conservatrices et rétrogrades, un bouleversement total et profond qui n'épargnera aucun domaine, aucun secteur de l'activité économique, sociale et culturelle. La révolutionnarisation de tous les domaines, de tous les secteurs d'activité, est le mot d'ordre qui correspond au moment présent. Fort de la ligne directrice ainsi dégagée, chaque citoyen, à quelque niveau qu'il se trouve, doit entreprendre de révolutionner son secteur d'activité. D'ores et déjà, la philosophie des transformations révolutionnaires touchera les secteurs suivants. Premièrement, l'armée nationale. Deuxièmement, la politique de la femme. Troisièmement, l'édification économique. L'armée nationale. La révolution dictera aux forces armées nationales trois missions. Premièrement, être en mesure de combattre tout ennemi intérieur et extérieur et participer à la formation militaire du reste du peuple, ce qui suppose une capacité opérationnelle accrue, faisant de chaque militaire un combattant compétent au lieu de l'ancienne armée qui n'était qu'une masse de salariés. Deuxièmement, participer à la production nationale. En effet, le militaire nouveau doit vivre et souffrir au sein du peuple auquel il appartient. Fini l'armée budgétivore. Désormais, en dehors du maniement des armes, elle sera au champ. Elle élèvera des troupeaux de bœufs, de moutons et de la volaille. Elle construira des écoles et des dispensaires dont elle assurera le fonctionnement. Entretiendra des routes et transportera par voie aérienne le courrier, les malades et les produits agricoles entre les régions. Troisièmement, former chaque militaire en militant révolutionnaire. Fini le temps où l'on prétendait à la réalité de la neutralité et de l'apolitisme de l'armée en faisant d'elle le rempart de la réaction et le garant des intérêts impérialistes. Grand 2, la femme voltaïque, son rôle dans la révolution démocratique et populaire. Le poids des traditions séculaires de notre société voue la femme au rang de bête de somme. Tous les fléaux de la société néocoloniale, la femme les subit doublement. Premièrement, elle connaît les mêmes souffrances que l'homme. Deuxièmement, elle subit de la part de l'homme d'autres souffrances. Notre révolution intéresse tous les opprimés, tous ceux qui sont exploités dans la société actuelle. Elle intéresse par conséquent la femme, car le fondement de sa domination par l'homme se trouve dans le système d'organisation de la vie politique et économique de la société. La révolution, en changeant l'ordre social qui opprime la femme, crée les conditions de son émancipation véritable. Les femmes et les hommes de notre société sont tous victimes de l'oppression et de la domination impérialiste. C'est pourquoi ils mènent le même combat. La révolution et la libération de la femme vont de pair. Et ce n'est pas un acte de charité ou un élan d'humanisme que de parler de l'émancipation de la femme. C'est une nécessité fondamentale pour le triomphe de la révolution. Les femmes portent sur elles l'autre moitié du ciel. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme, qui l'associe aux activités productives, aux différents combats auxquels est confronté le peuple. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui force de l'homme le respect et la considération. L'émancipation, tout comme la liberté, ne s'octroie pas. Elle se conquiert. L'émancipation, tout comme la liberté, ne s'octroie pas. Elle se conquiert. Et il incombe aux femmes elles-mêmes d'avancer leurs revendications et de se mobiliser pour les faire aboutir. Le processus des transformations révolutionnaires entreprises depuis le 4 août met à l'ordre du jour de grandes réformes démocratiques et populaires. Ainsi, le Conseil national de la Révolution est conscient que l'édification d'une économie nationale indépendante, autosuffisante et planifiée passe par la transformation radicale de la société actuelle, la réforme scolaire. Elle vise à promouvoir une nouvelle orientation de l'éducation et de la culture. Elle devra déboucher sur la transformation de l'école en un instrument au service de la révolution. Les diplômés qui en sortiront devront être non au service de leurs propres intérêts et des classes exploiteuses, mais au service des masses populaires. L'éducation révolutionnaire qui sera dispensée dans la nouvelle école devra inculquer à chacun une idéologie, une personnalité voltaïque qui débarrasse l'individu de tout mimétisme. Apprendre aux élèves et étudiants à assimiler de manière critique et positive les idées et les expériences des autres peuples sera une des vocations des écoles dans la société démocratique et populaire. La révolution démocratique et populaire créera les conditions propices à l'éclosion d'une culture nouvelle. Nos artistes auront les coudées franches pour aller hardiment de l'avant. Ils devront saisir l'occasion qui se présente à eux pour hausser notre culture au niveau mondial que les écrivains mettent leurs plumes au service de la révolution, que les musiciens chantent non seulement le passé glorieux de notre peuple, mais aussi son avenir radieux et prometteur. La révolution attend de nos artistes qu'ils sachent décrire la réalité, en faire des images vivantes, les exprimer en notes mélodieuses, tout en indiquant à notre peuple la voie juste, conduisant vers un avenir meilleur. Elle attend d'eux qu'ils mettent leur génie créateur au service d'une culture voltaïque, nationale, scientifique et populaire. Il faut savoir penser ce qu'il y a de bon dans le passé, c'est-à-dire dans nos traditions, ce qu'il y a de positif dans les cultures étrangères pour donner une dimension nouvelle à notre culture. La source inépuisable pour l'inspiration créatrice des masses se trouve dans les masses populaires. Savoir vivre avec les masses, s'engager dans les mouvements populaires, partager les joies et les souffrances du peuple, travailler et lutter avec lui devrait constituer les préoccupations majeures de nos artistes. Enfin, il nous faut définir la place de la révolution voltaïque dans le processus révolutionnaire mondial. Notre révolution fait partie intégrante du mouvement mondial de paix et de démocratie contre l'impérialisme et toutes sortes d'hégémonisme. Vive la révolution démocratique et populaire. Vive le Conseil national de la révolution. La patrie ou la mort, nous vaincrons.